Oui, c'est un peu, on boucle la boucle, si je puis dire. C'est, quand on s'en prend à la possibilité critique, évidemment, eh bien, c'est une manière de légitimer un discours qui va être construit sur des préjugés. Ariana Filacci a écrit un discours complètement réactif, dans des conditions biographiques pour elle difficiles. En tout cas, toujours est-il que son propos est clairement d'étaler ses préjugés xénophobes contre les, ce qu'elle appelle les fils d'Allah, c'est-à-dire les musulmans qui ont pour tort d'être étrangers à la culture d'Ariana Filacci, à sa représentation de la culture. Que Pierre-André Taguieff, Alain Finkielkraut et d'autres aient soutenu le propos d'Ariana Filacci n'est pas étonnant, puisque ça correspond bien finalement au mouvement d'ensemble. Alors, l'idée principale d'Ariana Filacci, on peut la résumer en citant un passage du second ouvrage, La force de la raison, qu'elle a écrit à la suite de La rage et l'orgueil, dans lequel elle critique le vice-président du Conseil italien, et elle lui écrit ceci, elle lui dit « Vous allez à Jérusalem, vous pleurez des larmes de crocodile devant Yad Vashem, la kippa sur la tête, puis vous forniquez de la façon la plus effarante avec les fils d'Allah. » Qu'est-ce que forniquer de la façon la plus effarante avec les fils d'Allah, de telle sorte que les larmes versées à Yad Vashem soient des larmes de crocodile? Est-ce soutenir le négationnisme qui se propage, qui existe dans les universités du monde arabo-musulman? Non. Est-ce que c'est soutenir l'Iran dans l'obtention d'une arme nucléaire, alors que c'est un pays dont le président a dit que rayer Israël de la carte faisait partie de son projet? Non. Non, la fornication dont il est question est la suivante. Vous voulez leur accorder le droit de vote, vous déclarez qu'ils le méritent parce qu'ils payent des impôts et ont la volonté de s'intégrer ou sont en train de s'intégrer. Donc voilà, la lutte contre l'antisémitisme s'exprime dans les textes de Filacci. C'est quoi? Eh bien, c'est pour l'essentiel de qualifier d'antisémite celui qui pense que les étrangers qui travaillent, qui vivent en Italie, en France, le droit, ils doivent, effectivement, on doit leur accorder le droit de participer à la vie politique. Voilà. Voilà ce qu'est être un antisémite, selon Ariana Filacci. C'est d'avoir cette conception-là. Alors, évidemment, c'est une conception clairement d'extrême droite, et c'est une conception d'extrême droite qui, chez Ariana Filacci, va s'exprimer ensuite d'une manière tout à fait symptomatique, puisqu'elle va parler des poursuites judiciaires qui ont été intentées contre elle en Suisse, et elle va citer d'autres victimes de ce qu'elle appelle l'Inquisition, c'est-à-dire c'est la justice helvétique. Le défenseur des animaux suisse Erwin Kessler, qui, comme Brigitte Bardot, ne supporte pas l'abattage halal et qui, pour l'avoir critiqué, se fit flanquer 2 mois de prison ferme. Un autre exemple, l'historien suisse Gaston Amodruz, octogénaire, qui publiait un petit mensuel révisionniste, Revoir l'histoire, c'est-à-dire la raconter d'une façon différente de la version officielle, est interdit de nos jours, vive la liberté, et qui fut condamné à cause de cela, le 10 avril 2000, par le tribunal de Lausanne, à 1 an de prison et à une lourde amende. Un autre, l'historien français Robert Forisson, révisionniste aussi, qui fut poursuivi en justice à son insu le 15 juin 2001 et condamné à 1 mois de prison ferme aussi, malgré son âge avancé, pour le motif qu'un de ses articles, publié en France, avait été repris par une revue helvétique. Donc, Ariana Filacci nous dit que le révisionnisme de Forisson et d'Amodruz, qui est donc la négation des chambres à gaz homicides, c'est la liberté de revoir l'histoire, c'est-à-dire de contester la version officielle de l'histoire. Parce que, à terme, bien entendu, laisser libre cours aux préjugés, anéantir la possibilité critique, à terme, on retrouve l'extrême droite classique, dont on nous dit que ce n'est plus elle qui est porteuse d'un antisémitisme. On la retrouve, bien entendu, on la retrouve avec ses traits symptomatiques, la haine des immigrés, la haine des étrangers et évidemment le négationnisme. Pourquoi? Parce que tout cela va ensemble, va de pair. Et finalement, comment articuler la figure de l'étranger à cette question que nous avons évoquée, qui est celle de la possibilité critique? Terminons là-dessus peut-être. L'acte fondateur de la philosophie, ce sont les dialogues de Socrate, écrits par Platon. La figure de Socrate qui va être condamnée, par la démocratie athénienne, pour avoir corrompu la jeunesse, c'est-à-dire pour avoir introduit cette possibilité critique, celle finalement du rationalisme, de l'exigence de rigueur, de méthode, qui est celle d'un rationalisme. Le dernier dialogue de Platon, qui s'intitule Le Sophiste, substitue à Socrate, Socrate n'intervient plus, qui est l'intervenant Il y a la position de Socrate. Platon l'appelle l'étranger. Voilà. C'est en ce sens, je crois fondamentalement, qu'il importe de réfléchir à la manière dont ces intellectuels s'en sont pris à des gens comme Yael Sivan, à des gens comme Bourdieu ou Morin, à des gens comme Alain Badiou. Et dans la mesure où toutes ces personnes-là exercent cette possibilité critique,